Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Comme chaque jour, le replay d'une séquence de l'émission du matin, si vous avez raté l'émission en direct à 9h30 sur France 2, cette séquence s'appelle « Les yeux dans les yeux », la plupart du temps un témoignage très fort, poignant, puissant, recueilli par Agathe Le Caron. Aujourd'hui, un sujet dingue, je vous préviens tout de suite. Quand on pense à l'accouchement, on s'imagine à l'hôpital ou à la maternité, avec une équipe de sages-femmes, de gynécologues à ses côtés, normal. Éventuellement, on peut se demander ce que ça ferait d'accoucher chez soi, voire, allez, si on a de l'imagination, dans sa voiture, sur le chemin de la maternité, oui, ça on peut l'imaginer. Alors maintenant, fermez les yeux et dites-vous, allez-y, fermez les yeux et dites-vous, tiens, ça ferait quoi d'accoucher dans un hélicoptère? Oui. Un hélicoptère. C'est ce qui est, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est ce qui est arrivé à Maëva. Écoutez-la, ça vaut le détour.
Bonjour Maëva.
Bonjour.
Vous êtes contente d'être sur ce plateau, hein? Mmh. Elle est un peu stressée, Maëva, c'est normal, hein? On est en direct et tout sur France 2. Alors Maëva, je vous présente, vous êtes la maman d'Evan qui a 8 ans, d'Anna qui a 3 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Anna, elle était très pressée de venir au monde. Elle est venue au monde à 7 mois de grossesse, en pleine nuit, à bord d'un hélicoptère du SAMU qui tentait de vous amener à la maternité. Donc c'est vraiment un accouchement hors norme. Merci mille fois d'être sur ce plateau pour nous raconter cette belle aventure. Alors déjà, vous aviez eu un accouchement très éprouvant, il faut le dire. Vous vous êtes dit, bon, c'est bon, j'ai donné le deuxième, il va être un petit peu plus serein. Pourtant, au septième mois, vous êtes hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Parce que ça fait quand même la deuxième fois.
Ouais. Bah, j'étais très stressée. J'avais très, très peur d'accoucher toute seule. Et, puis j'étais très, très loin surtout de ma famille, du coup, puisque l'hôpital n'était pas à côté. Donc, j'avais été... en fait, je devais accoucher dans un premier hôpital et ils n'accueillaient pas les enfants... ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'avais demandé à être transférée à Limoges pour être sûre que si jamais ça arrivait, je sois près d'Anna. Et du coup, c'est ce qui s'est passé.
L'hôpital, la maternité était à combien de temps de chez vous?
La première, elle était à 45 minutes et la deuxième où j'ai accouché, elle était à 55 minutes environ.
55 minutes quand même. Alors, au bout de 3 semaines, on vous a quand même laissé rentrer chez vous, hein, parce que rien n'indiquait finalement que vous étiez au bord d'accoucher. Vous n'aviez aucun signe.
J'avais juste perdu le bouchon muqueux quelques jours avant, mais il y a une des sages-femmes qui m'a dit qu'effectivement, ça arrivait au cours de la grossesse, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Donc, c'est vrai que...
Oui, ça ne veut pas dire accouchement.
Non, pas forcément.
C'est-à-dire que ça commence à se préparer doucement.
C'est ça.
Vous rentrez chez vous, donc c'était le 28 juin 2018,
oui.
En fin d'après-midi. Vous êtes donc à 33 semaines d'aménorrhée, oui. Donc ça fait plus ou moins, c'est ça, c'est
oui, 7 mois plein. Je rentrais dans mon 8e mois, du coup.
Comment s'est passée cette soirée du 28 juin, alors?
j'ai retrouvé mon fils déjà, donc j'étais très, très contente. Donc c'est vrai que vu qu'on n'avait jamais encore été séparés, donc on avait dormi... on avait choisi de dormir tous les trois ensemble. Donc, j'avais toujours énormément de contractions. Et puis, c'est vrai que j'allais très, très souvent aux toilettes faire pipi. Donc, après, je me suis dit, mais bon, à un moment donné, je me suis quand même inquiétée. Donc, c'est vrai que j'ai envoyé un message à ma sage-femme qui m'a dit de rappeler.
C'était quelle heure, à ce moment-là?
21h30, quelque chose comme ça, 22h. Et donc, du coup, elle me dit de rappeler mère-enfant, en fait, à Limoges, et de voir avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont dit... que ce serait bien de venir pour contrôler, voir que ce ne soit pas effectivement du liquide amniotique. Et comme je leur ai dit, je viens de rentrer chez moi.
Oui.
Donc, je pense que ça attendra demain matin. Elle m'a dit, prenez un cachet, restez allongé. Et puis, demain matin, vous revenez à l'hôpital et puis on vous examinera. Quoi.
Tranquille.
Voilà.
Sauf que ça ne s'est pas arrangé. Quoi.
Non, pas du tout. À 23h, j'ai rompu la poche des os. Donc, j'ai vraiment
senti...
Vous
avez tout de suite compris que c'était ça?
Sur le coup, non. Franchement, j'avoue, j'étais paniquée. J'ai senti vraiment quelque chose exploser, genre un ballon qui pète dans mon ventre. Donc, c'est vrai que non, j'ai eu très, très peur. Donc, j'ai tout de suite réveillé le papa des enfants et je lui explique que je pense que j'ai rompu la poche des os et qu'donc il faut appeler... le 15, quoi. Donc, lui, il était super paniqué. Donc, il les appelle et voilà.
Donc, il appelle SAMU, en fait.
Oui.
Les pompiers sont arrivés. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé à ce moment-là?
Déjà, c'était des papas d'enfants de l'école où je travaillais à ce moment-là. Donc,
les pompiers, c'était des papas d'enfants. Oh là, oui, ça,
donc,
c'est
j'étais
cool.
Hyper gênée. Donc, je leur explique que je suis à 33 semaines, surtout, leur expliquer que je suis... c'est un bébé préma. Et que je veux absolument qu'ils m'emmènent tout de suite à l'hôpital parce que je ne veux pas accoucher chez moi et que Donc, du coup, ils ont vu vraiment dans l'état que j'avais des contractions toutes les deux minutes. Donc, j'étais vraiment... je souffrais énormément. Donc, là, ils décident de rappeler le SAMU.
Et là, sachant que vous avez des contractions toutes les deux minutes, la décision est prise d'envoyer un hélico. Parce que comme vous êtes loin de la maternité, on n'a pas vraiment le choix.
Oui, c'est ça.
Alors, il a atterri où, cet hélico? Et surtout, il est arrivé combien de temps après? J'imagine que c'est des
12 minutes
très longs.
Oui, il met 12 minutes l'hélicoptère, sachant que les pilotes, ils ne sont pas prêts le temps qu'ils démarrent l'hélico. C'est vraiment le vol qui dure 12 minutes. Donc, du coup, il s'est posé au stade de notre petit village, Odora. Donc, ils ont dû réveiller le maire pour qu'il allume le stade et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que donc, l'hélico, c'était 12 minutes les plus longues parce que je me suis dit, j'avais très peur d'accoucher dans le camion des pompiers, quoi.
Et comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée dans l'hélico? Il a décollé tout de suite?
Non. En fait, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs à ce moment-là parce que j'étais tellement dans le stress. Mais on est resté quasiment une heure, moi, à attendre dans le camion des pompiers, l'hélico. Parce qu'en fait, on ne peut pas accoucher normalement dans un hélicoptère. Donc, on est...
C'est-à-dire, on ne peut pas?
En fait, les pieds sont vers la sortie, nous sortent. Ouais. Donc, si Anna venait à naître en plein vol, il n'y avait pas personne, en fait, qui pouvait la réceptionner à ce moment-là.
Ah, c'est ça.
Et donc, du coup, l'hélico est resté à savoir, en fait, on fait comment? On la met comment? Donc, on est resté un petit moment à savoir. Donc là, le SAMU, ils ont essayé de me faire accoucher dans le camion des pompiers. Donc, à me dire pousser. Et puis, c'est vrai que j'étais stressée, mais je voulais absolument pas accoucher ici. Et en fait, c'est à un moment donné, les pilotes du SAMU ont dit, on a une idée, on va la mettre à l'envers, quoi. Donc, oui. Les pieds vers eux, pour que toute l'équipe du SAMU puisse être là pour accueillir Anna si jamais venait à naître dans les airs.
Vous avez embarqué avec le papa?
Non. En fait, il y avait un jeune qui était là pour en formation, je suppose. Et du coup, il n'y avait pas de place pour lui. Donc, lui, il a dû faire le trajet en voiture, du coup.
Ça a dû être difficile, ça, quand même, pour vous.
Oui. C'est vrai que depuis le début, je m'imaginais accoucher toute seule, quoi. Je ne sais pas, une intuition sûrement de maman, future maman.
Donc, lui, il mettait une heure pour y aller. Mmh. Et vous, en hélico, c'était 12, combien de temps?
12 minutes.
Mmh. Alors, ça s'est passé comment, ces 12 minutes de vol?
Interminable.
Il y a les 12 minutes d'attente et il y a les 12 minutes de vol.
Voilà. Interminable, franchement, ça a été très, très long. Je me suis dit, alors, j'hurlais, bien sûr, tout le monde m'entendait. Donc, j'avais le casque. Puis, on est vraiment dans une position qui est pas du tout confortable parce que, on se rend pas compte comme ça, mais un hélicoptère, on est penché. Donc, j'avais tout le bas du corps qui était penché en arrière et les jambes qui étaient relevées. Donc, j'avais très, très mal et j'étais surtout très stressée. Pas vraiment pour moi, mais de me dire, est-ce que ma fille va naître en bonne santé? Est-ce qu'elle va pas avoir besoin d'être pour respirer à ce moment-là? Donc, c'est vrai que...
Stress à son paroxysme.
Exactement.
Quand vous atterrissez enfin à l'héliport, à côté de la maternité, dans le stress, dans les hurlements, on vous imagine. Est-ce que l'équipe a tenté de vous faire sortir tout de suite en urgence de l'hélicoptère?
Oui. En fait, la sage-femme est montée tout de suite dans l'hélico une fois qu'il s'est posé. Elle me dit, je suis Elodie, la sage-femme. Et là, j'ai dit, merci. et du coup, elle me dit, elle explique au pilote, sortez là. Et en fait, c'est moi qui dis, non, c'est pas possible. Enfin, je sens que elle est là, quoi. Et elle me dit, ah bon, stoppez là, on stoppe tout. Donc, j'avais la tête en dehors de l'hélicoptère et le reste du corps à l'intérieur. Et du coup, elle m'examine et elle dit, en effet, Anna est là, quoi. Donc, il va falloir...
Et même pas le temps de faire quelques mètres pour aller à la maternité.
Non. En fait, c'est que l'héliport est là et puis, faut y aller en ambulance après.
Oui, c'est ça.
Donc, non.
Donc là, branle-bas de combat, il faut accoucher dans l'hélico.
Il faut y aller.
Et comment ça s'est passé alors?
Déjà, je n'ai pas arrêté de dire je veux la péridurale.
C'est un peu compliqué.
C'est trop tard. Donc je dis tant pis. Elle me dit non, mais ça va bien se passer. Et donc du coup, c'est les pilotes qui se sont mis un de chaque côté du coup, pour m'aider. Donc ils m'ont relevé, m'ont donné la main et puis ils m'ont dit tu vas y arriver, Maëva, quoi. Mmh. Donc j' ai poussé deux fois et Anna était là, quoi.
Bon, alors, j'imagine que ça a été assez rapide,
oui.
Vu que vous étiez quand même pas mal retenue. Votre fille, elle est donc née à 33 semaines plus un jour. Il était 1h10 du matin. Vous l'avez dit, il y avait les pilotes qui vous tenaient la main qui, à mon avis, n'ont jamais oublié ce moment. La sage-femme, elle pesait 1,8 kg pour 41 cm. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre avec Anna, dans ces circonstances si particulières?
Je me souviendrai toujours de son regard, de ses yeux, quand ils m'ont quand même laissé lui faire un petit bisou. Et puis, Ça a été en fait entre soulagée parce qu'elle allait bien, enfin j'ai vu qu'elle allait bien, elle a pleuré tout de suite, donc c'est vrai que ça a été, je me suis sentie soulagée et en même temps stressée parce que je savais ce que ça impliquait d'accoucher prématurément, du coup la séparation. Donc ils l'ont emmenée tout de suite après au service néonat.
Et quand est-ce que vous avez pu la revoir après ça? Et le papa aussi?
Le papa, en fait, du coup, parce que lui, il n'était même pas là.
Oui.
Donc oui, il n'était pas là. Et il est arrivé quand moi, ils m'ont emmené dans les couloirs, on s'est croisés. Et du coup, on s'est fait un petit bisou. Puis il a dit, le service a dit, on vous emmène voir votre fille. Et donc moi, je me suis retrouvée toute seule, du coup, en salle de naissance, là où j'aurais dû accoucher d'Anna pour les soins derrière. Donc là, après, on attend quand même un petit bout de temps avant que je puisse rencontrer Anna. Donc, c'est vrai que ça a été long, là, à ce moment-là.
J'imagine. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous avez sur cet accouchement, 3 ans après? Est-ce que ça reste quand même un bon souvenir ou est-ce que c'est un traumatisme? Parce que dans les accouchements inopinés, pour toutes les femmes qu'on a reçues sur ce plateau, on se rend compte que parfois, c'est un petit peu dur à avaler quand même. C'est un choc, malgré tout.
Ouais. Non, moi, j'en garde un très, très bon souvenir puisque tout s'est bien passé, au final. Après, c'est vrai que c'était... Non, c'est une belle histoire et même Evan est fière de raconter que sa petite sœur est née dans un hélicoptère. Donc, j'en garde un bon souvenir, pas de traumatisme. Enfin, non, franchement, ça a été...
Et tout le monde va bien aujourd'hui.
Oui, c'est ça surtout.
Voilà.
C'est ça.
Merci mille fois, Maëva, d'avoir partagé ce moment hallucinant dans la maison des maternelles. Bonjour, Anne-Isabelle Boulogne-Munoz.
Bonjour,
à chaque fois que je la vois, elle se rajoute un nom supplémentaire. Donc évidemment, vous allez bien?
Oui, ça va.
Anne-Isabelle, vous êtes sage-femme coordinatrice à la maternité de l'hôpital Beaujon à Clichy. On vous connaît bien dans cette émission, on vous a reçu plusieurs fois. Vous allez nous éclairer sur les bons réflexes et les erreurs à éviter en cas d'accouchement inopiné. Parce que là, on a parlé d'un accouchement en hélicoptère. Parfois, on est obligé d'accoucher à la maison. Est-ce qu'une menace d'accouchement prématuré, qu'on appelle donc une MAP, comme l'a vécu Maëva, ça présage forcément d'une naissance express ou pas?
Pas forcément, justement, pas forcément, parce qu'on voit parfois des patientes que l'on déclenche à terme, qui ont fait des MAP, qui ont été hospitalisées, et puis ça s'est stabilisé et ça va très bien. On se méfie un peu quand même, hein, parce que souvent, les MAP accouchent vers 36-37, puis parfois bien avant.
Mm-hmm. On a reçu une question pour vous en vidéo de Léo, regardez.
Léo.
Bonjour, moi c'est Léo, donc j'avais une question sur les accouchements inopinés. Comment cela se passe avec le cordon ombilical et le placenta? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec à la fin? Voilà, merci.
Voilà, faites-nous un tuto. Nous allons accoucher seuls dans les bois. Comment ça se passe?
Alors, pour le cordon ombilical, une fois que le bébé est né, vous pouvez prendre de la ficelle, faire 2 petits liens de chaque côté et le couper, sachant que le bébé aura un vaccin antitétanique quand il va arriver à la maternité.
C'est-à-dire qu'on comprenne bien, cette ficelle, elle va servir à clamper.
En fait.
C'est-à-dire qu'on coupe en fait la circulation dans
On arrête la circulation fœtale, il passe en circulation normale, c'est-à-dire qu'il va prendre de l'air, crier, et donc la circulation fœtale s'arrête. Donc on clampe ces deux petits, ce cordon ombilical, on met de la ficelle, et au milieu, on coupe.
Et si on ne touchait pas, non?
Alors, on peut ne pas toucher, ça dépend.
Moi, perso, ce serait ma tentation, quand même. Mais bon.
Moi, je n'aime pas trop qu'on y touche, parce qu'en général, on sait, les pompiers vont arriver, ou le SAMU arrive assez vite.
Bon, maintenant, on n'y touche pas. En tout cas, on ne le coupe pas comme ça.
Non, on ne coupe pas comme ça. Et le placenta, on n'y touche pas. On ne fait rien, on ne tire pas, on ne fait rien, on attend, on emmène la maman à la maternité et nous, on gère.
D'accord.
S'il se décolle, il se décolle, mais voilà. Et on emmène le placenta surtout, si jamais il est décollé.
D'accord.
Parce que ça, on le vérifie.
J'ai jamais oublié son placenta.
Oui. Dis-moi, chérie, tu prends le placenta, là, parce que là, papa, on est à la bourre. Prends la valise et le placenta.
Vous avez une question de Maude, enceinte de 7 mois et vivant dans une maison assez isolée. Je crains de ne pas détecter à temps les signaux d'alarme. Comment évaluer la rapidité du travail?
Alors ça, c'est une très bonne question. Ça dépend si c'est un premier, un deuxième, un troisième. Ça, c'est obligatoire de savoir. En général, on dit, pour un premier bébé, on attend 2 heures avec des contractions toutes les 5 minutes pour venir à la maternité. Pour un deuxième, se méfier du deuxième, parce que le deuxième est plus rapide. L'utérus, il a une petite mémoire de savoir quand est-ce qu'il va se mettre en route. Mmh. Et puis, la maman, pour le premier, elle a pris un peu de temps. Je suis déjà allée à la maternité une fois, c'était pas encore ça, j'avais pas de bonne contraction, on m'a renvoyée. Pour le deuxième, on attend un petit peu plus longtemps, disons, on va pas refaire, y retourner, puis attendre 2-3 heures. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir.
Ouais. Et qu'après, on n'a pas la péridurale, c'est ça.
Voilà.
Il y a plein de questions pour savoir comment ça se passe. Quelle est la première chose à faire, demande Céline. Aurore, est-ce que le second parent ou la personne présente pour le moment doit intervenir pendant la sortie du bébé? C'est vrai, ça, on fait quoi?
Normalement, non. On n'a rien à faire.
À part dire si tout va bien se passer, les pompiers arrivent, quoi.
Bah oui, parce que la plupart du temps, ça se passe très, très, très bien. Moi, j'ai jamais eu d'accouchement inopiné qui se sont mal passés. D'accord. Jamais, en 25 ans de carrière.
Bon, ça rassure un petit peu, à mon avis, les femmes qui sont enceintes et qui nous regardent.
Eve nous demande si le bébé ne crie pas tout de suite ou paraît un peu bleu, est-ce que c'est forcément inquiétant?
Non. Alors, vous savez que quand un bébé va naître, il naît, nous, on a une minute pour coter l'Apgar.
Pour
coter l'Apgar?
L'Apgar, c'est, on a 5 critères pour dire est-ce que ce bébé va bien, est-ce qu'il ne va pas bien, est-ce qu'il a besoin d'une aide, de l'oxygène, est-ce qu'il faut le secouer, en tous les cas, un petit peu le raviver. Ouais. Et en fait, une minute, c'est très long. Et puis un bébé qui vient de naître de façon très rapide, il va naître étonné. En général, il arrive, il vous regarde, il est comme ça. Donc il faut attendre un peu, il faut le sécher, le mettre sur le ventre de la maman et attendre. Et si vous voyez qu'il est toujours un peu bleu, vous le séchez bien vigoureusement, vous grattez sous les pieds et vous allez voir, il va démarrer. Ouais.
Et c'est important de le dire ça pour tous les futurs parents qui nous regardent. Cette minute, elle peut être très longue.
C'est très long.
Avant de l'entendre pleurer, c'est tout.
Mais même nous, les sages-femmes, c'est très long.
Ouais. Oui. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un risque quelque part.
Oui et non, mais ils naissent beaucoup étonnés, hein, parce que le travail était tellement fulgurant qu'ils sont...
Ouais, et puis ils sont choqués quand même, je veux dire, c'est un choc. C'est ça, on n'y pense pas assez au choc des tout petits. Quelle est la définition exacte d'un accouchement inopiné? Durée de travail, avant terme, j'ai accouché de mes deux filles en moins de 1h30 de travail.
Alors, il n'y a pas vraiment de définition exacte. C'est un accouchement qui est très rapide et qui est en dehors de la maternité.
Ah bah voilà, c'est ça. Parce que 1h30 à la mat, tout va bien.
Ouais,
on
ne
parle pas d'accouchement inopiné. C'est de la chance.
Oui, c'est bien. C'est correct.
Alors, il y a Robin qui demande si on se rend compte qu'il est trop tard pour partir à la maternité. Que faut-il faire pour préparer la naissance? Est-ce qu'il y a des choses à faire déjà?
Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire? Bah oui, enfin, il faut un petit peu préparer, prendre du linge propre, 2-3 couvertures pour bien que la maman s'installe, appeler de l'aide, une voisine, ne pas oublier d'appeler le 15, parce que c'est vrai que dans la précipitation et l'accouchement, des fois, on peut oublier. Mm-hmm. Voilà, il n'y a que ça à faire, en fait.
D'accord.
Comment distinguer les contractions et les mouvements du bébé à partir de 33 semaines pour bien compter les contractions, ne pas se tromper et identifier un accouchement avant le terme?
Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que des fois, c'est hyper difficile de savoir si mon bébé qui bouge ou si c'est une contraction. Une contraction de travail, normalement, elle doit faire mal. Donc ça, un bébé qui bouge, on le sent, c'est rigolo, on sent les pieds qui passent, mais une contraction de travail doit faire mal. Il faut voir si, en corollaire si la poche des os est rompue. D'accord, si on perd les os, on prend la poche des os et
on
a des contractions.
Pas de question, là. Il faut y aller. Simple,
ouais. Ouais, il faut y aller. Mais surtout que les contractions sont beaucoup plus douloureuses quand on a rompu la poche des os.
Après, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Non. Il y en a pour qui cette douleur sera relative.
Mais on a toutes mes collègues, on a toutes eu des histoires comme ça avec des patients qui disent bah non, j'ai rien senti. Je me suis réveillée, j'ai rompu. Et puis, 2-3 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions. Une demi-heure après, le bébé était là.
Ouais.
On l'a tout eu. Voilà.
Alors Aurélie vous demande, ma mère n'a eu que des accouchements très rapides et ma sœur a accouché de son premier sur le parking de la maternité. Est-ce qu'il y a une composante familiale?
Oui.
Ah bon?
Oui.
Donc elle doit se méfier elle-même alors.
Ah, j'aurais jamais cru, tiens.
Si. Ouais, il y a des composantes familiales, il y a des femmes qui...
C'est physiologique?
Oui, qui accouchent hyper rapidement.
Tiens, question de sans doute quelqu'un d'angoissé, j'aurais pu la poser moi-même. Lors d'un accouchement inopiné, que doit-on faire si le cordon ombilical bloque la sortie du bébé? Il y a toujours ce fantasme du cordon autour du cou. Est-ce qu'on le coupe? Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on le...
Comment est-ce qu'on l'arrache avec ses ongles?
Avec les dents, bien sûr.
Avec les dents, mon Dieu. Deux solutions. Le bébé, vous voyez, la tête est sortie et vous avez du cordon qui passe et qui est lâche. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre doigt, refaire passer le cordon au-dessus de la tête et le bébé va continuer à sortir. Si le cordon est vraiment très serré, premièrement, en général, ce n'est pas des accouchements à domicile, parce que vous imaginez bien que s'il est très serré, c'est que la descente ne s'est pas faite hyper rapidement.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Donc en général, ça, c'est des accouchements de maternité.
Bon, ça rassure, ça.
Ouais.
Et vous, vous savez parfaitement gérer quand c'est très serré.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est très fréquent, parce que c'était une de ces angoisses pour moi quand j'étais enceinte.
Ouais.
C'est fréquent, le cordon autour du cou, pour vous, c'est la routine, quoi.
Oui, c'est la routine. Oui, c'est la routine.
Donc, c'est pas quelque chose... Vous dites pas « Mon Dieu !»
Autour, ici, en bretelles aussi. Ouais. Des fois, ils font même des tours autour du ventre. Ouais. On les a
partout. C'est impressionnant quand même. Hein. Ah oui, quand j'ai eu ça avec mon deuxième, c'était... ils essayent de ne pas trop nous faire stresser, parce que voilà, mais quand même, ils ne l'ont même pas mis sur moi. Ils ont pris rien. Voilà. Donc, bon, voilà. Je raconte un peu ma vie, mais...
Non, mais ça nous intéresse.
Tu partages. On est là pour partager, partage d'expérience.
Alors, Estelle, elle dit, pour moi, deux accouchements très longs, chaque fois avec péridurale, oui. mais j'aimerais tenter 100 oui. pour mon troisième. Y a-t-il des chances que, en étant mobile et le fait d'avoir eu deux accouchements avant, bah, du coup, ce soit moins long?
Oui, il y a des chances. D'abord parce que je ne sais pas comment se sont passés ces deux premiers accouchements. Donc, un premier
long,
qui est long,
disait.
Très long, ça peut arriver. Un deuxième très long... Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a été déclenchée? Est-ce que la tête était bien en bonne position? Elle a dû avoir une péridurale peut-être précoce? Est-ce qu'il a fallu remettre de l'ocytocine? Ça, je ne sais pas. Mm-hmm. Sur un troisième, elle peut tout à fait, avec sa sage-femme libérale, qui va lui faire sa préparation à la naissance. Voilà, il faut qu'elle écrive son projet de naissance. Mm-hmm. Et il se peut qu'elle ait effectivement un travail beaucoup plus rapide.
Plus rapide. Et le fait d'être mobile, ça change quelque
oui,
chose?
Ça change. On sait très bien aussi que la péridurale ralentit un peu le travail.
D'accord.
Ça peut le ralentir.
Et Marie, 4 enfants, le dernier, c'était en un quart d'heure ou non?
Non, comme c'était le dernier,
vraiment, on a du mal à lâcher.
Alors oui, c'est vrai que Marie a déjà raconté ça ici, on a du mal à... Comme si on avait du mal à lâcher, comme s'il y avait quelque chose psychologique.
Bah oui, bah, c'est trop bien la grossesse.
Ah mais je ne dis pas l'inverse.
Non, mais on ne dit pas le contraire, mais c'est vrai que vous remarquez que les femmes, quand elles sont persuadées que c'est leur dernier enfant, elles accouchent
parfois,
moins
oui.
vite.
Oui, alors ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut... C'est pas parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on va accoucher de plus en plus vite. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Celui dont
c'est
on se méfie.
Le premier et deuxième, c'est ça.
Le deuxième. Le deuxième.
C'est le boulet de canon.
C'est oui.
C'est le boulet. C'est je le pense qu'on peut le. Ouais.
C'est ça, le boulet.
Et vous allez faire
c'est
un cinquième de toute
bien
façon.
Bien sûr, ce sera
l'occasion
en tout cas, avec plaisir, je vous en ferai part.
Bien sûr. Rose a accouché dans sa salle de bain en sortant de sa baignoire. Le bébé a glissé en une poussée. Et même s'il va bien, je ne fais que penser à ce qui aurait pu arriver. J'en rêve même la nuit. Auriez-vous des conseils? Alors c'est sûr que ça laisse un trauma quand même.
C'est hyper traumatique. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut absolument qu'elle revoie sa sage-femme qui la suit en suite de naissance. Et elle peut tout à fait en parler avec une psychologue de maternité. Ça, il faut vraiment toujours, toujours débriefer. De toute façon, tous les accouchements traumatiques doivent être débriefés. Tous.
Alors, une question autour d'un mythe, d'un fantasme, le placenta.
Oui.
Elena, elle dit, dans certains pays, on parle des vertus du placenta après l'accouchement pour la maman. Si, en gros, qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on peut le garder?
Non.
Interdit.
Normalement,
France,
c'est
on
interdit.
Pas le droit,
on n'a pas le droit en France.
Mais il y a bien des pays
c'est
où on parle de...
C'est un déchet biologique qui doit partir et être incinéré.
Ouais.
Et le garder, est-ce qu'il a été examiné? Parce que ça, c'est l'histoire d'une grossesse, un placenta. C'est l'hôtel et le restaurant pour le bébé. Donc on doit absolument, nous, les sages-femmes, le vérifier pour savoir s'il y a... Toute la galette placentaire est bien intègre, s'il y a bien les deux membranes, le corion et la
mios. Ça, vous le voyez tout de suite, j'imagine.
Ah ben, on le vérifie. Après, c'est bien 5 bonnes minutes de vérification.
Ça ne doit pas être le moment le plus sympa pour vous, non, de l'accouchement, si.
Moi, j'adore regarder les placentas, parce que c'est l'histoire d'une grossesse.
Ah, okay.
C'est important. Donc, par exemple, une maman qui a fait beaucoup d'hypertension, on voit que les placentas sont très, très vieillis.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Ça les fatigue énormément, d'accord. Donc, on ne le garde pas?
Non, on ne le garde pas, nous, on le fait incinérer.
Et vous avez des demandes, des fois, pour le garder?
C'est arrivé.
Oui.
Pour le manger?
Alors.
Pour
une fois, parce que là, non, mais si vous nous regardez, vous dites n'importe quoi. Si, c'est vrai, il y a plein de gens qui veulent le manger.
Oui.
C'est les Américains, notamment, qui font ça.
Alors, moi, c'était une femme qui était d'une tribu indonésienne qu'on avait accouchée dans le 78, et donc qui a accouché selon son rite. Et en fait, quand on est re-rentré dans la chambre, elle était en train de manger son placenta. C'est un peu...
Mais après, c'est compliqué parce que c'est son placenta.
Si
c'est
regardez, il y a des animaux qui le mangent.
Mais bien sûr, c'est pour ça.
Le mangent, donc bon. Non, certaines nous demandaient des morceaux de placenta pour faire de l'homéopathie, des choses comme ça.
Mais donc, c'est interdit au final?
En France, oui.
OK.
Ah, dis donc, à l'heure du petit déjeuner. Question de Brice. Ma femme a failli accoucher de notre premier avant d'arriver à la mat. Elle est enceinte du deuxième. L'idée d'un accouchement hors de l'hôpital me stresse. Y a-t-il des formations pour les papas au cas où?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Ouais.
Non, je ne crois pas que ça existe. Maintenant, j'en reviens à la préparation à la naissance et à la
sage-femme libérale. Plus il va l'accompagner.
Évidemment, plus elle va l'accompagner, plus il sera en contact avec la sage-femme libérale qui pourra lui prodiguer deux, trois.
D'ailleurs, post-Covid, là, les pères, globalement, peuvent aller partout, à tous les rendez-vous de préparation?
Alors, dans notre maternité, oui.
Oui, mais ce n'est pas encore le cas partout.
Je ne sais pas complètement partout, mais en tous les cas, dans notre maternité, oui, ils ont droit. Évidemment, il faut qu'ils aient le pass sanitaire. Pour rentrer à la maternité. Voilà.
Marianne nous dit « J'ai eu une césarienne pour mon premier bébé et j'accouche bientôt du deuxième. J'habite loin de la maternité, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'après une césarienne, il y a plus de risques d'accouchement inopiné ?»
Alors, je dirais oui et non. En fait, ça dépend à quelle dilatation elle a été césarisée.
Ah.
Parce que si, par exemple, elle est allée jusqu'à dilatation complète et que son bébé ne soit pas engagé, elle peut faire un travail extrêmement rapide pour le deuxième. Et donc, elle verra ça avec son obstétricien et l'équipe obstétricale qui va la gérer.
C'est une question qu'elle va poser, quoi.
Oui. Ouais.
Jessica a eu deux accouchements très différents. Le premier déclenché à J+7, 8 heures de travail. Le deuxième à la maison en 1h30 pour une autre grossesse éventuelle. L'accouchement sera-t-il forcément encore plus rapide ?
Non.
Non. Bien sûr que non, Jessica.
Mais non.
Aucun accouchement ne se ressemble.
Exactement.
Bon, est-ce qu'il y a quand même des... Pas forcément des règles, mais est-ce qu'il y a des tendances, si on veut lui dire à quoi se préparer ?
Non, en tous les cas, il ne faut pas qu'elle traîne, ça c'est sûr.
Oui, vous moquez de ma question, non, c'était excellente.
Voilà, quand elle commence à voir que les contractions se régularisent, il faut y aller.
Ouais. Alors, Ella nous dit « J'ai accouché de mon premier dans mon salon car il est arrivé trop vite. Ça a été une expérience géniale finalement. Enceinte de nouveau, j'aimerais accoucher à la maison. » Du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications ?
Alors, il existe des contre-indications pour les accouchements à domicile qui sont gérés par des collègues sages-femmes. Donc elle doit contacter une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile et elle lui dira si elle est éligible à un accouchement à domicile.
Parce que, d'ailleurs, la galère, c'est souvent un peu de l'organisation, d'en trouver la sage-femme qui va accepter.
Oui. Mmh.
Ouais. Oui. Pourquoi d'ailleurs c'est... Pourquoi vous, les sages-femmes...
Parce qu'elles ne peuvent pas non plus avoir énormément de patientes à suivre par mois. En général, elles en accouchent 4 par mois maximum, ce qui est quand même beaucoup. On a eu une réunion avec des sages-femmes libérales qui font ça, c'était très intéressant. Ouais. Alors d'abord parce que c'est vrai que la crise de la Covid a fait que beaucoup de patientes ont eu peur de venir à la maternité. Ouais. Et il y en a quand même, il y a eu un
reconnaissance un peu.
Oui, d'accouchement à domicile et parfois d'accouchement à domicile solo.
Ah oui.
Sans personne, sans sage-femme.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. C'était, ça nous a un peu choqués d'ailleurs. Donc il faut qu'elle voie ça avec une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile.
Merci beaucoup Anne-Isabelle Boulogne-Muñoz pour tous ces conseils indispensables.
Voilà, merci beaucoup à Anne-Isabelle Boulogne d'être venue nous voir dans la Maison des Maternelles. Et bien sûr, merci à Maëva. Maëva, merci beaucoup pour ce témoignage. Faut bien le dire, assez incroyable. Et si vous-même, vous avez accouché de manière originale, alors pas forcément dans un hélicoptère, mais n'hésitez pas à venir nous le dire sur les différents réseaux sociaux, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. On se retrouve, bien entendu, dès 9h25 sur France 2, en direct. Que vous dire ? Si vous pouvez prendre le temps de laisser un petit message, un petit commentaire sur votre application à propos de ce podcast, nous, ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Et moi, je vous dis donc à demain. Bon après-midi. Ciao tout le monde.